C'est le Mars des femmes sur Radio BLV.
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 Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le cadre du Mars des femmes sur Radio BLV, si vous n'aviez pas compris, aujourd'hui, on parle des métiers de l'agriculture au féminin et du quotidien des exploitantes. Quelles sont les réalités en 2023, les besoins, quelles évolutions, etc. C'est Sylvie au micro et Clément qui assure la régie de cette émission. Pour défricher ce vaste sujet, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Alors, en studio, j'ai Inès de Rancourt, chevrière, co-créatrice de La Chèvre qui sourit à Sous et présidente du CIVAM de la Drôme. Bonjour Inès.
Et bonjour tout le monde.
Et bienvenue sur le plateau. Valérie Perret, co-créatrice de Jardin en Vie à Bourg-les-Valences, c'est la locale de l'étape. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et Paul Balin, on dit Balin ou Balain ?
Balin.
Paul Balin, donc chevrière à Chabeuil, en entreprise individuelle sous le nom de Capri B. Bonjour Paul et bienvenue.
Bonjour tout le monde.
Alors merci à vous trois d'être ici. On aura au téléphone Laure Colombo du domaine de Lorient du collectif Ferme Paysanne et Sauvage. Et puis le témoignage de Aurélie Roux du Moulin d'Aubin que j'ai enregistré parce qu'elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Alors, les métiers de l'agriculture sont multiples et semblent parfois très éloignés de ce qu'on peut imaginer des métiers de la terre. Alors, en ce qui vous concerne, on va faire un petit tour de table très rapide. Quelle est votre activité, le statut sous lequel vous l'exercez et depuis quand ? Allez, Paul, on commence avec toi.
Eh bien, moi, je suis donc en entreprise individuelle. J'ai un élevage de chèvres où je fais du fromage de chèvre que je transforme entièrement. Et je vends sur les marchés uniquement et voilà, tout en vente directe.
Donc élevage et transformation et vente.
Ouais, ouais.
Inès ?
Eh bien, vous n'avez que des chevrières aujourd'hui. Hein. donc moi, j'ai un statut de chef d'exploitation agricole en GAEC. Donc on est à 50-50 avec Daniel. Daniel était installé en entreprise individuelle et moi j'avais un statut de conjoint collaborateur. Et puis on a monté un GAEC il y a quelques années de ça. Ça doit faire 4 ans le 1er avril. Et en plus du fromage de chèvre que nous faisons de la même manière que Paul, on fait aussi toute la culture pour nourrir nos animaux. Et depuis 4 ans, on a 1 hectare de vigne pour vendre du raisin qui va servir à faire du vin dans la nouvelle cave de Sous.
Pour qui ira très bien donc avec le picodon.
Qui ira très bien avec le picodon, j'espère.
Merci. Et toi Valérie ?
Alors moi je suis salariée, associée, dirigeante de la société coopérative d'intérêt collectif Jardin en Vie. Donc on est artisan semencier, on produit donc des semences, des plants et des légumes de variétés paysannes, voilà.
Toi, depuis quand tu fais ça ?
Alors, Jardin en Vie, on a ouvert au public en 2010.
Et toi, Inès ?
Et alors, Daniel s'est installé en 2011 et j'ai rejoint le GAEC, comme je l'expliquais, il y a 4 ans.
Et toi, Paul ?
Et moi, eh ben, 2011. Je me suis installée en 2011.
Ah, on est presque jumelles.
Ouais, ouais, ouais.
On
ne savait pas, mais...
Même plus que ça, hein, on pourrait dire que là, tu as des triplettes.
Oui. Mais c'est intéressant, parce que c'est quand même des statuts différents. Et alors peut-être des démarches différentes aussi, parce que qu'est-ce qui a présidé à votre choix d'activité ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est une transmission familiale, rencontre avec un conjoint, une démarche personnelle ?
Alors moi, c'est une démarche personnelle et pas du tout dans le cadre familial. Mon mari m'aide quand même, hein, je ne suis pas toute seule, et on a tout monté, on est parti d'un terrain nu et on a tout monté tout seul.
Mais alors, tu venais quand même de ce milieu agricole ou pas du tout ?
Mon papa était horticulteur, mais moi je ne suis pas du tout d'ici, je suis d'Angers, donc voilà, pas... rien à voir quand même. Mmh. Et non, mon mari de son côté, non, pas du tout du milieu agricole. Donc non, il y a pas.
Et c'est un choix à un moment qui.
Oui, on a envie de changer de vie. Bah, c'est qu'on a beaucoup voyagé et travaillé pour d'autres et on avait envie, moi particulièrement, de travailler pour moi.
Mmh. De monter ton projet.
Voilà, c'est ça, d'être autonome et voilà quoi, donc on est parti, moi j'avais déjà fait un peu des stages dedans et on est parti là-dessus.
Donc démarche complètement personnelle, voilà. de bout en bout,
voilà.
Et complètement assumée. Et toi Inès, tu viens, c'est...
Alors moi je suis ce qu'on appelle dans le jargon une NIMA, donc non issue du milieu agricole aussi. Du coup, j'ai eu cette idée de m'installer il y a très 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 longtemps et puis je me suis vite rendu compte que en n'ayant pas d'argent et surtout en n'ayant pas de foncier, c'était tout juste un doux rêve que je pouvais potentiellement imaginer dans ma petite tête. Et quand Daniel a voulu changer complètement d'orientation et qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on valorise en fait les terres qu'on avait autour de la maison, qui est un héritage de ses grands-parents et de ses parents, je lui ai dit oui tout de suite, en pensant pas y mettre le bras comme ça. Et puis en fait, j'ai adoré ça. Et puis plus ça va et plus j'adore ça, en fait, même si c'est très fatigant. Et du coup, c'était pour moi plutôt une histoire de changement de statut, à un moment où je me suis rendu compte que je travaillais autant que lui, alors que mon statut était minable. Mmh. Donc j'ai vraiment insisté pour qu'on puisse monter un GAEC et que je puisse avoir un vrai statut à moi.
Mais donc je ne connaissais pas la terminologie NIMA, donc non issu du milieu agricole. Et je crois que toutes les trois, effectivement, vous, là pour le coup, c'est vraiment les triplettes. C'est que toi, Valérie, merci Inès.
Et oui, moi aussi, je suis NIMA, donc je viens de l'apprendre aussi. Voilà, moi aussi une démarche de reconversion, qui a une grosse vingtaine d'années liée à un combat contre les OGM qui m'a fait découvrir l'importance de défendre les semences paysannes et la volonté de travailler en collectif. Donc dès l'origine, avec mon compagnon Eric, on a voulu monter une coopérative. Voilà, donc ça a mis quelques années avant de voir le jour. La première coopérative sous forme de SCOP est née en 2016 et la société coopérative d'intérêt collectif il y a 3 ans.
C'est vraiment c'est une volonté, c'est un choix. C'est pas des hasards de la vie. Bon, même si Inès, soit tu as rebondi un peu, effectivement, vous avez rebondi sur cette possibilité. Mais enfin, il y avait quand même au départ une vraie volonté d'aller vers ces métiers, on va dire.
Travailler la terre. Après, c'est un vrai choix de vie aussi de décider à un moment donné d'aller vivre dans le milieu rural, en pleine campagne, de s'attacher en plus avec des animaux au quotidien. Mais c'est un vrai bonheur aussi de vivre ça au quotidien, de se lever le matin, de voir les paysages qui sont toujours les mêmes, mais toujours différents, de pouvoir travailler la terre et de pouvoir surtout apporter des produits sains, de qualité, dans les assiettes de nos consommateurs. Et tous les jours, en fait, je me félicite qu'on ait fait ce choix-là parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En fait, je m'en rends d'autant plus compte actuellement où on voit que la malbouffe est en train de prendre un essor incroyable, qu'on a vraiment un souci avec l'alimentation. Et pour moi, l'alimentation, ça fait quand même partie de la base de notre vie. Je pense que le fait d'être devenue maman aussi, à un certain moment, donc peu de temps avant de m'installer, a fait qu'on
s'est investi. Il y a des prises de conscience qui se font à ce moment-là. Quelques chiffres, c'est toujours un peu pénible les chiffres, mais des fois c'est pas mal parce que ça permet de s'accrocher. Alors cela, il date de 2019 et c'est l'INSEE. Alors, en France, en près de 40 ans, alors que la taille des exploitations a augmenté, la part des agriculteurs, agricultrices, exploitants et exploitantes est passée de 7,1% de l'emploi total à 1,5%. Toujours en 2019, 73% des agriculteurs, donc de ces agriculteurs exploitants, étaient des hommes. une proportion en hausse depuis 40 ans, alors que l'ensemble de l'emploi en général s'est féminisé plutôt depuis 1982. Alors, le recul de la part des femmes ayant un emploi principal d'agriculteur s'explique, selon l'INSEE, en premier lieu par le fait qu'il y a de moins en moins de conjointes d'agriculteurs qui sont elles aussi agricultrices. Par exemple, en 1982, c'était près de 60% des hommes agriculteurs qui avaient une conjointe agricultrice. Cette proportion aujourd'hui, enfin en 2019, donc on peut dire aujourd'hui quasiment, est de 19%.
Ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas toutes sur l'exploitation.
Oui, oui.
Alors justement, ça peut signifier qu'il y a soit plus de célibataires, d'après les chiffres de l'INSEE, hommes, ou alors que les femmes d'agriculteurs ont d'autres emplois, ou qu'elles disparaissent petit à petit, qu'elles sont effacées
des statistiques
parce qu'on manque de statistiques. Voilà, invisibilisées. Alors, ces chiffres, ils datent de 2019, mais je ne suis pas sûre que les choses aient vraiment beaucoup, beaucoup évolué depuis. Est-ce que vous avez quelques remarques déjà, juste sur ces chiffres-là?
Si, si. Alors, les choses, elles évoluent quand même parce que le statut des femmes évolue. Hein, depuis 2010 ou 2011, peut-être un petit peu avant, on peut s'installer en GAEC entre conjoints. Donc ça, c'est quand même une belle avancée. On est en train de faire évoluer le statut de conjoint collaborateur, puisque les conjoints collaborateurs ne peuvent garder ce statut que 5 ans. Alors, normalement, dans ce qu'on entend, c'est pour que les gens aient envie ensuite de s'installer, de prendre un statut. Je suis un peu dubitative quant à ça, parce que j'ai bien peur que dans 5 ans, ceux qui étaient conjoints collaborateurs finissent par trouver soit un statut encore pire, et alors au mieux qu'ils continuent à travailler mais sans avoir de statut sur la ferme. Souvent c'est le cas. Des fois, moi, il m'est arrivé de demander à un collègue éleveur si c'était lui qui s'occupait de sa compta. Il me dit oui, ma mère me donne un coup de main. Voilà, donc sa maman travaille, mais elle n'a pas de statut vraiment là-dessus. Mais elle est là pour donner un coup de main.
Oui, bien sûr.
Souvent, en fait, que ce soit les femmes ou les maris, donnent un coup de main. Mm-hmm. Il y a un petit hic là-dessus, mais on les voit certainement pas parce que ils sont pas sur les tracteurs dans les champs. Voilà. Donc il y a des choses qui évoluent. Néanmoins, il y a encore un gros travail sur les statuts, mais aussi sur la façon de travailler.
Alors, tu parlais de ce statut de conjoint collaborateur, conjointe collaboratrice. C'est un statut qui existe aussi chez les indépendants dans d'autres domaines, chez les commerçants, etc. Et généralement, c'est un statut perdant-perdant pour les femmes. Hein, faut être très, très clair. Oui. Donc, est-ce que là aussi, dans le milieu agricole, c'est le conjoint collaboratrice et conjointe collaboratrice non salariée, c'est ça?
Oui, c'est ça. On n'est pas salarié, simplement on cotise à la MSA pour avoir quand même un minimum de statut. Ça a été mon cas pendant une dizaine d'années. J'avais pas de numéro de sécurité sociale propre. Quand j'allais chez le médecin, en fait, j'étais sous le numéro de sécurité sociale de mon compagnon. Voilà. Ça remet un peu les choses au clair.
Oui, donc parce que ça veut quand même dire qu'a priori, tu n'existes pas.
C'est ça. Pourtant, c'est bien moi qui vendais les fromages sur le marché. Hein.
Oui, alors, à contrario, moi, c'est mon mari qui est conjoint collaborateur.
Oui.
Mais il travaille. Enfin, oui, il travaille.
Il a son emploi.
Il a un boulot à côté. Donc, on utilise, entre guillemets, le statut conjoint collaborateur pour qu'il soit quand même. Par exemple, il fait un marché le mardi matin. Ça lui permet d'être assuré et tout ça, quoi. Nous, on l'utilise de cette manière-là parce que en soi, on n'a pas forcément par rapport au revenu. Il a un revenu à côté, donc c'est plus au niveau assurance. Au moins, il a un statut quand il va sur les marchés ou qu'il est couvert, quoi.
Oui, mais parce qu'il a son emploi, il est salarié à côté.
Alors, je pense que c'est pas utilisé de la même manière pour les femmes, par contre. Mm-hmm.
Toi, non, mais... Valérie, est-ce que tu as eu affaire à ce... Ou est-ce que tout de suite, alors, vous, dès le départ, ça a été...
Ouais, non, nous, on a choisi le salariat pour tout le monde, pour avoir un statut, une couverture sociale, droit à des congés payés, travailler 35 heures par semaine, le fait d'être en collectif, ce qui est quand même assez exceptionnel dans le monde de l'agriculture, même si, pour être tout à fait honnête, certains d'entre nous, dont je fais partie, travaillent pas mal plus. Mais en tout cas, voilà, on est au moins cette couverture sociale sur 35 heures. Et la moitié de l'équipe, donc on est une dizaine de permanents, et la moitié sont des femmes.
Là, c'est des chiffres de la MSA qui datent de 2022. Les salariés, alors là, on passe sur les salariés de la production agricole, sont employés à 39% en viticulture, 33% en culture spécialisée, je vous passe les virgules, et en gros 16% en polyculture élevage. Il faut savoir quand même que 81,8%, 82% des salariés sont en CDD. Donc des salariés femmes.
Là, souvent, ce sont des saisonniers.
Ouais, c'est,
Est-ce que vous faites appel à des salariés, par exemple?
Oui, moi j'ai une jeune femme qui travaille pour nous à la fromagerie et à la traite. Donc elle vient du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, et puis octobre, et puis novembre. Plus ça va, et plus on l'embauche longtemps. Et puis on a aussi des salariés pour tout ce qui est travail viticole. Et l'idée aussi, pour nous aider, nous soulager cette année, puisqu'on... Je ne sais pas si c'est une chance, mais on est dans un cercle 1 par rapport au tout ce qui est protection contre le loup, défense contre le loup. Donc cette année, j'aimerais aussi trouver un petit emploi pour m'aider à faire de la garde des chèvres dans les bois.
Quand tu dis cercle 1, pour les non-initiés?
Le cercle, en fait...
C'est le plus...
C'est là où on est le plus touché par le loup. Donc c'est grâce à ces cercles-là, ce sont des zonages en fait, qui sont attribués par la préfecture. Mmh. Et ce sont des zonages qui nous permettent d'avoir des pourcentages plus ou moins élevés pour des aides. D'accord. Donc nous, on a la majeure partie de nos aides, c'est 80% d'aide donc, sur l'emploi. Mmh. Donc c'est quand même assez intéressant, même si on s'en passerait. Vous avez bien compris. Mais c'est quand même pas mal de se dire qu'on peut embaucher aussi. Après, ce sont des emplois un peu précaires. Mmh. C'est très peu d'heures. Donc, du coup, je trouve que le système de ferme collective ou le système d'embauche à plusieurs a tout son effet, en fait. Et c'est là qu'on voit vraiment l'importance de l'entraide dans le milieu agricole, dont on manque cruellement. Et c'est pour ça que c'est vraiment très, très important de travailler en réseau. C'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré au syndicat Caprin ou au CIVAM. Ce sont des lieux où, en fait, où on peut se découvrir, s'apprendre et puis échanger pour avoir des pratiques qui permettent de travailler dans des meilleures conditions, d'une part. Si après on arrive à travailler un petit peu moins, ce serait aussi vraiment merveilleux. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de prôner dans les réseaux CIVAM, c'est d'avoir... des systèmes économes, autonomes et durables. Et je le dis souvent, la durabilité, c'est pas que pour les machines. Ça doit aussi servir sur l'humain.
Oui,
d'autant plus que tu l'as très bien rappelé, on est 1,5% de la population. Donc, on est une espèce en voie d'extinction. Oui. Et du coup, l'idée dans les CIVAM, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de nanas qui ont envie de travailler dans ce milieu. Donc, si on a plein de nanas qui viennent et qui sont visibilisées, peut-être qu'on arrivera à être de plus en plus nombreux et à faire en sorte que notre agriculture et surtout nos paysans survivent.
Et la qualité des produits aussi. Tu parles de mutualisation, tu parles d'entraide. Est-ce que, justement, dans le CIVAM a lancé au niveau national alors une campagne intitulée « Dégenrons le monde agricole et rural », sous-titré, ça vous dérange?
Voilà.
Je trouve ça très, très joli. Alors, de quoi on va aller plus loin, mais si je faisais le lien avec la mutualisation et l'entraide, c'est est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, justement, qui arrivent, est-ce que vous avez l'impression du coup que cette prise en compte de ces nécessités, elle est de plus en plus grande, peut-être du fait que ce sont des femmes?
Je pense que elles ont peut-être moins peur de demander enfin, pas de l'aide, mais oui, de faire appel à des gens extérieurs, à mon avis. Enfin,
C'est tout à fait ça, en fait. D'autant plus dans le milieu rural, nous, les femmes, bah, on a l'habitude de se débrouiller parce qu'on bah, n'a pas trop le choix, parce qu'on gère nos vies professionnelles, plus nos vies de famille. Et du coup, bah, on a besoin de s'entraider parce que bah, tout seul, c'est moins simple. On ne vit plus comme les générations précédentes. On n'a plus les parents, les grands-parents qui vivent à la maison, qui pouvaient nous aider. Très souvent, nous, les NIMA, donc les nouveaux arrivants aussi dans le monde rural, eh ben, on n'a pas forcément la famille à côté. Mmh. Donc, du coup, ben, on se retrouve entre...
C'est un réseau.
Voilà, exactement, pour emmener les enfants à l'école, pour aller les chercher, les emmener à telle ou telle activité. Donc, c'est sûr qu'on a l'habitude de le faire dans nos vies personnelles. Mmh. Donc, après, de le faire dans nos vies professionnelles, ça devient presque une évidence. Mmh.
Et alors, tu veux rebondir, Valérie, sur cet aspect-là ?
Oui, nous, on embauche aussi, en plus des permanents, pas mal de saisonnières. En fait, l'an dernier, il y avait même une grande majorité de femmes. Cette année, c'est plutôt des hommes. Alors, du coup, ce n'est pas une règle, mais il y a en effet, je trouve, de plus en plus de femmes qui sont intéressées par ces métiers, même si c'est des métiers difficiles. Ouais.
Dégenrons le monde agricole et rural. C'est quoi exactement cette action, Inès ?
Alors, ça, c'est en fait un plaidoyer que nous avons écrit il y a maintenant 2 ans. Et c'est un plaidoyer qui a vocation d'être porté, exporté un petit peu partout pour vraiment donner la parole aux femmes. Donc, y a plusieurs thèmes. La valorisation, la visibilisation des femmes dans le milieu rural. Et puis, l'accès au métier pour le faciliter à travers les voies professionnelles, les voies d'apprentissage, la répartition des tâches. Et on voudrait aussi beaucoup parler, prôner ces espaces d'éducation populaire qui sont des émancipateurs énormes et très puissants. Et c'est surtout dans la non-mixité choisie. La non-mixité, c'est des espaces qui sont faits par les femmes, pour les femmes. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais il y a beaucoup de femmes qui ont ces besoins-là. Et on s'en est rendu compte dans la Drôme, puisqu'on a fait des propositions pour monter des groupes de femmes qui sont en pleine émulation. On a récolté une cinquantaine de mails et de coordonnées de femmes qui sont très partantes pour monter ces groupes, pour se retrouver entre pairs. Mmh. Alors, j'ai élargi un petit peu. Nous avons élargi au niveau des 6 femmes de la Drôme. On a voulu que ça s'adresse aussi aux femmes du monde rural, parce qu'en fait, on partage un petit peu les...
Oui, les mêmes réalités.
Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Donc, des salariés, des chefs d'exploitation ou des femmes d'eux. Aussi.
Femmes, sœurs, filles.
Voilà, et donc ça permet un petit peu de parler de toutes nos réalités quotidiennes.
Et est-ce qu'au premier rendez-vous, vous avez vu un panel assez important, même en termes d'âge ?
Ah oui, c'est très divers. Ouais, très divers et varié, et c'est super intéressant. Et on s'est retrouvés, en fait, à Chabeuil, il n'y a pas tellement longtemps, avec une femme qui a plus de 80 ans et qui avait monté un groupe femmes il y a 40 ans. Et le groupe existe toujours. Et cette dame n'a pas arrêté de nous répéter qu'on avait raison et qu'il fallait absolument insister et continuer à faire ces groupes de femmes. Depuis le début, elles sont en non-mixité. Mmh. Ça leur arrive aussi d'avoir des espaces mixtes avec leur mari, leur compagnon. Mais elles ont vraiment insisté sur le fait de se retrouver entre femmes. Mmh.
La parole est plus fluide.
C'est différent et ça permet aussi de se donner une espèce de force, de puissance quand on se retrouve n'importe où pour oser l'ouvrir, en fait.
Donc une manière aussi de reprendre, finalement, de reprendre le pouvoir. La réalité, la réalité des femmes rurales, eh bien, c'est bien celle des femmes, effectivement, de commerçants ou travailleurs indépendants aussi. Et les choses ont peut-être bougé un petit peu plus vite dans ces milieux urbains qu'en milieu rural. Mais là, vous bougez carrément très, très fort quand même. Est-ce que, parce que tu dis, le plaidoyer avait 2 ans, Mais là,
alors,
c'est,
au niveau national, c'est incroyable, surtout là, pendant la période du Salon de l'Agriculture, on nous a demandé, réclamé. Mais dans la Drôme, je ne pensais pas que ça allait être à ce point-là. En fait, on en est à un point où on va essayer de monter deux groupes femmes, parce qu'il en faut un plutôt vers le nord et un autre plutôt vers le sud, tellement on a de demandes.
Ça prouve qu'il y a, il y a une vraie envie.
Mais il y a un besoin. Il y a une besoin. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais je crois que c'est vraiment nécessaire pour plein de raisons.
Alors, dans votre plaidoyer, il y a certaines propositions qui pourraient faire l'objet de déclarations communes ou qu'on puisse toutes reprendre. Par exemple, reconnaître le travail domestique comme du travail utile à l'ensemble de la société, interroger le fonctionnement des instances de gouvernance et co-construire une plus grande inclusion des femmes, œuvrer à faire émerger une culture commune des co-responsabilités des hommes et des femmes. Ces trois lignes sur la très très longue liste de ce que vous avez, c'est vraiment, je pense qu'on est, nombreuses à pouvoir le reprendre.
Préciser que ce n'est pas de faire contre les uns contre les autres, mais de faire ensemble.
C'est pour ça que j'ai pointé aussi cela, parce que je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment, on co-construit, on est en co-responsabilité, ce qui pour l'instant était effectivement la non-mixité subie, mais c'était des deux côtés. Hein, voilà, allez vous balader dans des instances de gouvernance et vous verrez que même si parfois il y a autant de femmes que d'hommes, si vous regardez le temps de parole, vous allez être surpris. Je vous propose de faire une première respiration musicale, le temps d'appeler Laure Colombo au téléphone. C'est ton choix, Inès, c'est Ultramoule avec Bouge ton boule. Tu nous dis deux mots.
C'est un groupe punk féministe et je les ai découvertes lors du festival Oustock. L'année dernière à Oust, personne ne voulait venir avec moi cette soirée et je me suis retrouvée là-bas et en fait il y a eu c'était complètement fou, tout le monde s'est mis à danser à cette soirée et après ce groupe, je suis rentrée chez moi parce que j'avais eu ma dose.
Je me tire à fond, viré au violet. Les poupes en l'air, de pied à terre, je me barre bien et je vais bouger mon boulot.
Ultramoule, bouge ton boule, c'était le choix de Inès dans cette émission spéciale de Mars des femmes sur Radio BLV autour de l'agricultrice aujourd'hui, réalité et besoin. On accueille maintenant Laure Colombeau. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors Laure Colombeau du domaine de Lorient, collectif Ferme Paysanne et Sauvage. Est-ce que tu peux Laure, juste déjà très rapidement nous parler de ton activité, présenter ton activité en quelques mots, sous quel statut tu la pratiques et depuis quand ?
Alors moi je suis vigneronne sur Saint-Péret, donc sur la haussée Saint-Péret. Je cultive un petit peu moins de 7 hectares de vignes et puis on s'est installé sur une ferme qu'on veut en tout cas polyculture élevage plutôt, donc on a aussi des animaux, on travaille tout en bio. Voilà. Après au niveau statut, c'est moi qui me suis installée en fait. Parce que je connaissais un peu le réseau, puis à la base c'était moi qui était vraiment la viticultrice du couple et mon conjoint m'a rejoint du coup sur l'exploitation et lui pour l'instant il est salarié. Donc c'est peu coutume dans ce sens-là.
Surtout dans ce milieu-là.
Surtout dans ce milieu-là, ouais. Donc voilà. Ce qui permet de rééquilibrer pas mal en fait les choses. Parce que c'est vrai que sinon, on a tendance à s'adresser beaucoup à l'homme.
Oui. Je fais juste une petite... je rebondis juste là-dessus. Inès a apporté la chouette BD « Il est où le patron ?» c'est exactement... On est bien dedans, là. On est bien dedans. Tu es installée depuis quand ?
Je me suis installée en 2014. Mmh. Au départ, parce que le foncier, c'est quand même un vrai sujet un peu compliqué, surtout en viticulture et surtout sur les AOC de notre coin, quoi, on va dire. Donc, j'ai eu une double activité jusqu'à l'année dernière, en fait. Et au départ, c'est pour ça que Dimitri, mon compagnon, est salarié sur le domaine, parce que c'est lui le premier qui a pu bosser à plein temps sur le domaine. Lui, il est salarié depuis 2017, et moi à plein temps depuis l'année dernière. Voilà.
Ok. Alors, le collectif Ferme Paysanne et Sauvage, en deux mots, c'est quoi exactement ? Quelles sont vos revendications ou ce que vous défendez en tous les cas ?
Alors déjà, l'idée, c'est de partager des idées, des infos, des actions en local. Donc on est une vingtaine de fermes à une heure en gros autour de Valence, donc Drôme et Ardèche confondues, sur le bassin valentinois qu'on va dire. Et l'idée, c'est de promouvoir une agriculture qui ne se veut pas en opposition avec la nature et la vie sauvage, mais en fait qui pense que déjà elle peut l'intégrer et en plus ça peut lui rendre service aussi. Et du coup c'est positif pour tout le monde, voilà.
Et alors ce collectif il est mixte ?
Ouais, on est... Alors il y a des fermes qui sont gérées en couple, comme nous, comme par exemple Seb et Elsa de la ferme du Grand Laval. Il y en a où c'est plutôt des fermes collectives. Donc là, il y a collectif dans le sens chacun un atelier différent.
Allô ? Ah, on t'a perdu. Allô ?
Ouais.
Voilà, ça y est.
Je vous entends bien.
Eh bien, ça y est, là, on t'entend à nouveau.
Ok, je n'ai pas bougé pourtant, mais il y a plein de vent sur nos montagnes. Alors...
Ce sont les mystères.
Il y a des fermes collectifs aussi dans ce réseau, donc, où là, il y a à la fois des hommes et des femmes. Et puis après, il y a des fermes individuelles, des exploitations individuelles, où il y en a, par exemple, Dame des Champs, où c'est une femme qui est installée toute seule. Voilà.
Alors, est-ce que tu as l'impression que la démarche du collectif Ferme Paysanne et Sauvage, est-ce que ça va de pair avec une démarche de plus grande égalité femmes-hommes, justement ? Et est-ce que vous êtes peut-être plutôt des jeunes ? Comment ça se passe ?
Alors, on n'est pas spécialement jeune. Moi, je vais avoir bientôt 40 ans.
Oui, ça reste jeune.
Non, après, je pense que le fait déjà d'avoir en fait une philosophie et un point de vue qui essaye d'intégrer l'agriculture au sauvage, de respecter le sauvage, le vivant et la nature, fait, à partir du moment où on a une position respectueuse, ben, on respecte tout. Et c'est vrai que du coup, ça gomme un peu l'effet genre. Quand on gomme déjà un peu la différence entre les espèces et qu'on remet l'homme au milieu de la nature en tant qu'espèce pas plus importante que les autres, il n'y a pas de raison de différencier les genres. Voilà. C'est un postulat important, quoi.
Inès, je te vois...
Ah oui, je suis tellement d'accord. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est aperçu au niveau du réseau CIVAM que finalement, les femmes, elles apportaient beaucoup sur la durabilité des fermes. Enfin, en tout cas, elles essayent de faire en sorte d'apporter beaucoup et de changer des pratiques énormément. Des pratiques plus vertueuses, en fait, elles amènent ça souvent sur les fermes existantes. Hein, et quand ce sont elles qui s'installent, souvent elles démarrent tout de suite avec des pratiques bien plus proches de la nature.
Paul,
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que nous c'est pareil. Enfin, on n'est pas en bio, mais on produit tout sur notre ferme, on n'utilise pas de produits, voilà quoi. On n'a même pas d'antibiotiques pour les chèvres, on en utilise. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'en a pas utilisé, quoi. Donc,
il y a une espèce d'évidence. C'est aussi, évident, c'est ce que tu dis, Laure. Oui, c'est une évidence. Valérie, alors toi, tu es au cœur en plus avec les semences.
Oui, alors moi, c'est vrai que l'évidence, je la sens pas uniquement féminine, même si c'est clair que c'est important. Les femmes apportent aussi un aspect... je dirais peut-être communication non violente dans le collectif qui est assez important dans notre équipe. On a Renate qui est très très vigilante là-dessus, et dès qu'il y a des non-dits, elle essaye de dénouer les choses, d'anticiper sur les éventuelles tensions et c'est vraiment important donc pour nous. Après, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de violence entre femmes, hein, mais en tout cas, voilà, dans notre équipe, elles apportent ça
en tous les cas. Laure, quand je rebondis sur ce que disait Inès, qui disait, mais souvent, quand ce sont des femmes qui reprennent des exploitations existantes, ou en tous les cas, qui rentrent dans une exploitation existante, elles les font évoluer, on se rend compte qu'elles les font évoluer vers des pratiques vertueuses. Est-ce que vous, dans le collectif, il y a ce type de choses? Est-ce qu'il y a des gens qui ont repris des exploitations déjà existantes et qui les font doucement, je dis doucement parce que j'imagine qu'il faut du temps, doucement aller vers les fermes paysannes et sauvages.
Oui, alors c'est peut-être pas spécifique aux femmes, ça. C'est
non, là, là y a, c'est là, voilà, plus largement.
Mais moi, ce que je remarque quand même, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était quand même beaucoup d'hommes qui travaillaient, parce qu'il y avait toujours des femmes qui étaient présentes sur les fermes. Mais en tout cas, c'était souvent l'homme qui gérait et qui était voilà. Et aujourd'hui, dans les transmissions, il y a pas mal donc de femmes qui reprennent. Moi, ça a été mon cas, parce que par exemple, mes parents sont aussi vignerons sur Cornache. Et j'ai souhaité créer mon domaine à moi, parce que j'avais envie de changer justement un peu les pratiques au niveau agricole et puis au niveau de la relation avec le sauvage. Et du coup, j'ai l'impression que comme on est une femme et qu'on passe souvent derrière un homme, notre père en général ou le grand-père, on nous compare moins, on a moins de pression en fait par rapport à... C'est peut-être plus difficile pour un homme de dire je vais faire différemment, parce que de toute façon, nous, le fait qu'on ait une femme et qu'on reprend une exploitation qui était avant gérée par un homme, ça va forcément être différent. Donc en fait, on est un peu plus libre.
Personne nous attend au tournant, quoi. C'est un peu ce que tu veux dire.
Alors, au contraire, bien sûr, on nous attend au tournant, mais vu que de toute façon, on nous attend au tournant, en fait, voilà. on a moins de pression sur ça, quoi. On sait que dans tous les cas, ça va jaser. Donc.
Oui, dans tous les cas, il va falloir se battre et être bien debout pour faire front. Si aujourd'hui, tu avais une revendication particulière, ou en tous les cas un domaine sur lequel tu as vraiment envie d'insister sur cette égalité homme-femme, ou en tous les cas sur les besoins et sur les réalités des femmes dans le milieu agricole, ça serait lequel? Ou plusieurs peut-être.
Alors moi, il y a un truc assez personnel qui m'a pas mal touchée parce que moi, ça fait déjà, ça fait déjà presque une dizaine d'années que je suis dans le milieu du vin et installée, que j'ai fait mon petit trou. Et j'ai jamais trop ressenti, vraiment ce machisme je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas voilà, j'ai jamais eu trop de soucis avec le fait d'être une femme dans ce milieu. Et par contre, j'ai une petite fille qui a 5 ans et là c'est bizarre parce qu'en fait j'ai ressenti cette différence depuis que j'ai une fille et que je vois le regard des autres sur ma fille vis-à-vis du monde de l'agriculture.
Ah oui.
Par exemple quand je l'ai eu, on m'a dit j'ai eu des réflexions vraiment de clients, de fournisseurs qui m'ont dit de toute façon faudra bientôt faire un garçon du coup pour la reprise.
Ah oui.
Enfin vraiment ouais, j'ai enfin voilà où... Et puis après il se trouve que finalement j'ai eu un garçon derrière et qu'on m'a dit alors c'est lui l'héritier. Enfin voilà. Ah oui. Alors que moi j'avais jamais ressenti ça avant, et c'est vrai que ça c'est en tout cas sur la partie transmission et la partie gestion d'une entreprise agricole, je trouve qu'il y a énormément de choses encore à faire. Parce que peut-être au niveau du travail aujourd'hui, concrètement sur les exploitations, la femme, on le sait, elle a fait sa place. De toute façon, elle a toujours été présente. Elle a toujours labouré, toujours travaillé dans les champs. Voilà. Mais c'est vraiment plus au niveau, je trouve, de la gestion et de l'organisation et de la transmission des fermes où là, il y a encore vachement de boulot à faire.
Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames, là ? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu entendre ou...
Tout à fait.
Ouais. Alors moi, je tombe des nues. Hein, mais...
Pas moi, mais ouais. En fait, moi, j'étais contente. J'ai reçu là des jeunes qui sont des jeunes et des moins jeunes qui sont en BPREA, donc brevet professionnel responsable d'exploitation agricole.
Oui.
Donc ça, c'est le diplôme qu'on passe pour pouvoir s'installer en agriculture quand on n'a pas fait forcément d'études agricoles ou quand on veut aller un petit peu plus loin. Et je leur disais que ce serait vraiment bien qu'on fasse évoluer un petit peu ce qui se passe dans les écoles agricoles, dans tous les lycées qu'on a un peu et dans les MFR qu'on peut avoir dans la Drôme. Et là, ils sont presque révoltés en disant non, mais c'est beaucoup mieux. Maintenant, les filles, elles ont vraiment leur place. Non, ça, c'est vraiment, il y a des choses qui évoluent. Et donc, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, c'est super. En fait, bientôt, on n'aura plus besoin de se battre. Nickel.
Ouais, super.
Mais quand même, en fait, on m'a expliqué que c'était pas forcément toutes les nanas qui avaient pu monter sur les tracteurs pour faire un petit peu de machinisme.
Ouais.
Alors ça arrive de plus en plus, on a l'atelier paysan qui bosse là-dessus. Et heureusement, il y a une évolution, mais il y a encore du job. Mmh. Il y a encore beaucoup de job. Moi, j'ai fait deux filles. Donc je suis pas très embêtée. Il y en a une qui conduit le tracteur, l'autre, elle préfère être dans ses bouquins. Et elle conduit carrément mieux le tracteur que moi. Va falloir quand même que je lui donne un petit peu des bribes de comptabilité, parce que sinon, elle va avoir du mal.
La transmission, c'est bien que tu aies mis le doigt sur, sur cette histoire, parce que la transmission, c'est un vrai problème aujourd'hui dans le monde agricole en général. Il y a beaucoup de fermes qui s'arrêtent, voilà. Et que la transmission ne se fait pas nécessairement. Mais alors là, ce n'est pas un problème homme-femme.
Non.
C'est qu'en général, on a un problème de transmission. Alors, soit
problème d'agrandissement aussi. Après, il y a des modèles là, sur les fermes collectives, par exemple, où heureusement que ça commence un petit peu à évoluer, parce qu'avant, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas du tout. Et en fait, on se rend compte que ça marche. Il y en a qui résistent, quoi. Donc, c'est complètement incroyable. Il y a même des associations qui s'occupent de ces collectifs de fermes. Mmh. Heureusement que ça y est, on y est, quoi. C'est pas trop tôt, en fait.
Mais cette histoire de transmission, est-ce que vous le voyez ? Alors, je sais que Valérie, toi, vous êtes à la recherche de terrain agricole.
On est tous à la recherche.
Tous. Le foncier,
les triplettes sont OK pour ça.
Toi aussi, Laure, c'est la problématique reste entière ?
De la recherche de terre, ouais,
du foncier.
C'est toujours un sujet. Ouais.
et est-ce que quand vous arrivez en tant que... Justement, alors là, on sait qu'il y a des propriétaires qui refusent de vendre à des nouveaux arrivants, des gens qui ne sont pas des NIMA, voilà, c'est très joli mot. Homme ou femme, là, par contre, il n'y a pas de problème, hein, c'est non.
Encore pire pour les femmes.
Et alors justement, est-ce que c'est encore pire pour les femmes? Est-ce que vous le sentez?
Moi, je vis avec un pur produit local. Il y a déjà lui-même du mal. Et en fait, moi, je ne rentre même pas dans les discussions. Je le laisse y aller. Mais c'est très, très problématique. Oui. C'est infernal, en fait. Mmh. Et
Ce refus de vendre.
Ah oui, oui. Refus de vendre, refus de laisser à des gens qui ne seraient pas du milieu, qui ne seraient pas d'ici. Voilà. Donc, il y a deux sujets sur lesquels tous on se rassemble. Mmh. Donc, il y a la problématique des femmes et la problématique de la transmission. Mais n'empêche que les solutions, elles ne sont pas simples à trouver. Hein. Mmh. Et ça nous dépasse un petit peu.
En fait, la problématique de la transmission, elle est aussi beaucoup que le monde agricole, avec des organismes comme la SAFER, pour pas la citer, va aussi peut-être favoriser l'agrandissement plutôt que...
De nouvelles petites exploitations.
Oui, ou d'asseoir des petites exploitations. Puis alors là, en plus, on assiste à, soi-disant, à la chute de l'agriculture biologique. Donc, on a quasiment plus droit à la parole, quoi.
Ouais, soi-disant.
Donc ouais. ça devient vraiment un souci très particulier. Et moi, j'espère que là, dans les 10 prochaines années, on va quand même pouvoir continuer à l'ouvrir parce que on a une demande, mine de rien. Je pense que... C'est les gens, c'est pas qu'ils ne veulent plus aller vers l'agriculture biologique, c'est pas ça du tout en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens. Mmh. Donc il faut juste tout réapprendre, tout réexpliquer. Et on parlait tout à l'heure d'alimentation, de produits qui soient sains et de fermes qui soient durables. Mmh. Tout ça va ensemble, hein, et il va falloir expliquer aux gens où est-ce qu'il faut remettre les priorités.
Merci beaucoup Laure, on va te libérer.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tous les cas, puis d'avoir lancé le sujet sur la transmission, parce que ça fait vraiment partie des choses effectivement très importantes. Merci beaucoup à toi tous les cas.
Au revoir.
À bientôt. Et je vous propose d'écouter tout de suite, je parlais d'Aurélie. On va écouter Aurélie du Moulin d'Aubin. Bonjour Aurélie.
Bonjour, bonjour Sylvie.
Tu es exploitante agricole. Tu as commencé quand ?
J'ai commencé en 2007, donc ça fait 15 ans. Je suis issue du monde agricole. Mon papa était agriculteur et mon grand-père aussi. J'ai un frère qui est plus jeune, qui travaille dans le monde agricole, mais plutôt dans une coopérative, et ma sœur qui a changé complètement de voie.
D'accord. Donc c'est toi qui as repris l'exploitation familiale ?
Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait prévu, et puis j'ai repris.
Quand tu dis c'était pas prévu, toi tu étais partie vers sur d'autres types d'études ou de carrière.
Enfin mes parents m'avaient fortement encouragée à faire autre chose, voilà. Et puis finalement je suis revenue à l'agriculture. Longtemps j'ai travaillé avec mon papa. Quand il a pris sa retraite il y a à peu près 5 ans, j'ai essayé d'embaucher, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver la bonne personne. Et puis là, depuis 2 ans, mon conjoint m'a rejoint sur l'exploitation. Et là, on a aussi embauché quelqu'un avec qui ça se passe super bien. Donc, on est 3.
Donc, ça veut dire que les choses évoluent et évoluent plutôt bien ?
Oui, très bien, ouais.
Bon, c'est quoi je dirais pas le secret de la réussite, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais toi, en l'occurrence, ça a été la diversification ?
Si je parle pour le milieu agricole, oui, c'est la diversification. Parce que on a toujours des aléas climatiques ou sanitaires et tout ça en agriculture, et du coup d'être diversifié, c'est plus facile d'y faire face.
Aujourd'hui, dans ton travail, dans ton quotidien, dans tes rapports avec les collègues, avec tout ce qui est tout l'environnement, comment ça se passe ? Quelles sont aujourd'hui tes réalités ? Et puis les besoins, peut-être des besoins spécifiques auxquels tu fais face ?
Je dirais que là, en 2023, le regard du monde agricole sur les femmes agricultrices, il a quand même bien évolué, et je me sens considérée autant qu'un homme, qu'un homme chef d'exploitant. Ouais. Après, il reste, on va dire, petit côté, enfin, il y a les anciens, quoi, l'ancienne génération qui est quand même là à douter des capacités des femmes dans l'agriculture. Mmh. Mais sinon, de manière générale, ça a quand même beaucoup progressé. Je me sens l'égale d'un homme. Après, il reste toujours le problème. Si je voulais lancer un appel au monde agricole, je dirais qu'il y a quand même le côté manutention ou le travail avec les machines, enfin, qui reste quand même adapté aux hommes. Et c'est vrai que pour une femme, c'est pas facile, quoi.
Et c'est pas adapté aux femmes. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils lourds, ce sont des outils compliqués physiquement à utiliser ou en termes d'ergonomie principalement ?
Les deux. Mmh. Ce sont des outils qui sont lourds, vraiment lourds. Et c'est vrai que atteler quelque chose de lourd derrière un tracteur, ça demande quand même une force musculaire, un gabarit important et qu'on n'a pas. Mmh. Et après, en termes d'ergonomie aussi, c'est pareil. Être confortable dans un tracteur agricole, même les plus modernes maintenant, ils sont faits pour des hommes. Mmh. C'est vrai que voilà, on n'est pas en bonne position, il n'y a rien à faire. Ça c'est anecdotique encore, le tracteur. Ce qui est le plus difficile, c'est ces outils lourds où ils pensent pas aux femmes. Mmh. Je pense qu'en 2023, ils pourraient trouver des solutions, oui. Et qui conviendraient aussi aux hommes, parce que c'est pareil, même s'ils sont plus forts, et ça, ils en seraient très contents aussi. Hein.
Comme toutes les femmes, hein, et là, c'est pas seulement dans le milieu agricole, la gestion maison, famille, travail, enfants, loisirs, parce que ça fait partie aussi de nos vies, normalement. Comment ça se passe ?
Je dois bien avouer que c'est pas facile. Mmh. Après, c'est pas le fait que je sois du monde agricole,
c'est ça.
Que c'est le fait d'être très pris par l'entreprise. Mmh. Et en plus d'habiter sur place aussi. Je pense que c'est quand même malgré tout un piège, ça. On n'a jamais fini, on est toujours sur place et on y retourne toujours un petit peu malgré tout et on a du mal à couper. C'est vrai que gérer la famille, les enfants, les associations, le travail, c'est difficile, quoi. Là, c'est vrai que pour mes loisirs à moi, personnels, pour le moment, ils sont un peu... je me dis toujours, il faudrait que, mais j'ai du mal.
Ouais, ça passe encore au second plan. Et est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des aides, des petits coups de main comme ça, organisés pour pouvoir faciliter cette partie aussi, au-delà du conjoint qui participe à la vie familiale et à la gestion de la famille, mais c'est peut-être aussi une mise en place d'aide pour les enfants, de choses comme ça.
Ouais. Oui, c'est ça. Et puis peut-être aussi, c'est vrai que les créneaux horaires sont peut-être pas assez larges aussi au niveau pour pouvoir aller dans les loisirs, quoi. C'est pas facile aller à la piscine, c'est quelque chose, ça, je sais que les agriculteurs en aimeraient bien. Aller à la piscine, ça détend les muscles, ça fait du bien. Et c'est vrai que les créneaux sont pas adaptés. Enfin, bon, après...
Avant de finir, quand même, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux femmes qui nous écoutent, qui sont comme toi, exploitantes agricoles, quel que soit le domaine d'ailleurs de l'agriculture, ou celles qui se posent des questions en se disant c'est un milieu qui m'attire, j'ai envie de me tourner vers un projet. Est-ce que tu aurais deux, trois choses à leur dire?
En tout cas, j'ai des encouragements à leur donner, c'est sûr. Parce que je pense que les femmes dans l'agriculture, par les difficultés justement qu'elles ont à relever au niveau physique et tout ça, elles ont une approche différente du travail dans leur organisation qui du coup est meilleure et qui fait que souvent l'exploitation fonctionne bien. Voilà. Je dis qu'il faut qu'elle se lance parce que du coup, et puis c'est pareil, les femmes sont habituées à gérer plein de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est un caractère qui correspond bien à l'agriculture parce qu'on doit penser à plein de choses en même temps. On doit être vraiment polyvalent et je dis aux femmes, allez-y parce que vous en avez les capacités.
Merci beaucoup Aurélie et puis longue vie au Moulin d'Aubin et tu repars en livraison donc
voilà,
merci d'avoir pris ce temps. À bientôt.
De rien. Merci.
Alors, on revient au plateau. Il y a une question sur laquelle je voulais revenir, c'était les besoins spécifiques aux femmes. Aurélie dit dans son interview que le matériel est lourd, il n'est pas adapté, mais que ça soit pour hommes ou femmes, là, du coup, parce que c'est des charges lourdes. Est-ce que vous voyez des choses très concrètes sur les besoins, sur des besoins actuels des femmes agricultrices? Paul, peut-être?
Le matériel, j'avoue que je ne m'en rends pas compte parce que c'est mon mari. Alors, c'est vrai que c'est lui qui fait le... Parce qu'il fait le bourrin aussi, du coup, parce que ce n'est pas facile, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Après, oui, effectivement, moi, quand il faut bouger les ballots de foin et tout ça, bon, je fais rouler. C'est vrai qu'il faut avoir, il faut avoir un peu de conditions physiques. Après, spécifiques...
Des choses comme ça auxquelles tu... Peut-être...
Très, très simplement, il y a une chose typiquement compliquée en agriculture, c'est d'atteler et de dételer le matériel. On est toujours en train d'atteler et de dételer du matériel qu'on met derrière le tracteur. Mmh. Et ça, en fait, c'est terrible. C'est parce que c'est lourd. Des fois, il fait froid, des fois, il fait chaud, des fois, c'est plein de graisse, des fois, ça casse. Et souvent, il faudrait être un ou deux. Et souvent, c'est les nanas qui se prennent des remarques, alors que le mec, il en a chié comme des ronds de chapeau la veille, quoi. Et par contre, à lui, on ne lui a rien dit. Ou alors d'avoir une remorque. Parce que nous, on se déplace avec des camions et des remorques. Typiquement, quand on va à l'abattoir, eh ben, moi, j'ai un gros camion, plus la remorque à l'arrière avec tous mes petits animaux. Mm-hmm. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Mm-hmm. Mais en plus, quand on n'a pas l'habitude, parce que souvent, on le dit, hein, souvent, les petites filles, on ne leur a pas appris à jouer avec des voitures. On leur a appris à jouer à la poupée ou à se maquiller, ou on leur a appris à jouer à la marchande. Et du coup, bah, nous, on n'a pas forcément cette notion de recul avec tout ce matériel. Donc, il y a besoin effectivement de se former, en fait, tout simplement, de créer des outils. Donc, pour ça, on a des ateliers paysans. Je pense que c'est beaucoup plus vrai, en fait, pour le maraîchage ou pour les plantes aromatiques et médicinales. Et du coup, c'est ces besoins-là. Mmh. En dehors du fait que spécifiquement nos corps de femmes, il faut en parler. On a nos règles tous les mois et on peut être ménopausée aussi. Mmh. Et on peut aussi être enceinte. Et on peut aussi, quand on porte, nous, des charges lourdes, avoir des retournements d'utérus, des choses comme ça, que les hommes, ils n'ont pas ce problème-là. Donc ça, c'est spécifique aux femmes. Donc là-dessus, il y a matière à discuter, en fait, et à se former.
Oui, moi, c'est vrai que... Donc, tu as parlé de l'atelier paysan. Donc, c'est un collectif avec lequel on a pas mal travaillé. On a auto-construit plusieurs outils avec eux. Et cette problématique de l'attelage des outils au tracteur, on est en train de la résoudre grâce à une pièce toute bête qu'on monte sur chaque outil, qui s'appelle un triangle. Et donc, il y a un triangle mâle, un triangle femelle. Et du coup, ça permet, avec beaucoup moins de force... je ne dis pas que des fois, il ne faut pas mettre des coups de pied, mais en tout cas, de rendre accessibles ces tâches aussi aux femmes. Après, ça n'empêche que c'est quand même... des outils qui sont obligatoirement très lourds, mais on réfléchit aussi à fabriquer des outils qui permettent de faire plus de travail manuel. On a fait un outil qui s'appelle une Stittbin, où on travaille d'ailleurs allongé dessus. On a même des panneaux solaires au-dessus qui nous permettent de travailler à l'ombre et de faire tout un tas de travaux manuels. Donc l'outil avance très doucement au-dessus de nos buts. Et voilà. Donc en fait, il y a pas mal de boulot qui perdent beaucoup de pénibilité grâce à l'inventivité des ingénieurs de l'atelier de paysans. Ouais.
C'est plein d'espoir quand même, tout ça. D'abord, il y a un enthousiasme fou, que ça soit chez vous, que ça soit chez Laure, chez Aurélie. Moi, le fil rouge, c'est l'enthousiasme. C'est malgré tout ce plaisir. Vous aimez vos métiers et ça se sent. et que c'est peut-être aussi ce qui donne l'énergie de se battre encore plus pour pouvoir faire perdurer des métiers dans une pratique vertueuse et respectueux autant des humains et humaines que de la Terre. On est obligé de terminer. Moi, je vous conseille d'aller sur le site du CIVAM parce que vous allez trouver plein de choses. C'est les 30 ans d'ailleurs de Ferme en Ferme, le 29 et 30 avril, donc on en reparlera. Merci infiniment à toutes les trois d'avoir été là.
Merci.
Merci.
Est-ce que vous, voilà, oui,
très bientôt, il y aura des diffusions du documentaire Croquante, qui est un documentaire qui a été réalisé par Hector Nestor, les films Hector Nestor. Là, normalement, il devrait revenir, notamment au lycée agricole Les Valentins. Si vous allez sur les sites internet des films Hector Nestor, vous retrouverez toutes les diffusions. Et ça parle un petit peu des groupes de femmes qui sont en train de se monter. Et puis après, en matière de podcast, il y a plein de choses très intéressantes. Je pense à Finta, qui a fait toute une série qui s'appelle Les Pionnières. Mais il y a aussi plein de comptes Instagram de femmes agricultrices à aller voir parce qu'elles osent parler.
Merci encore une fois. Merci beaucoup à toutes les trois. Et puis,
merci,
à très bientôt,
merci
ici
beaucoup.
Ou là.
Merci.
C'est le Mars des femmes sur Radio BLV.
C'est le Mars des femmes sur Radio BLV.
C'est le Mars des femmes sur Radio BLV.
C'est le Mars des femmes sur Radio BLV.